Bienvenue au Polysécur épisode spécial Sécur. Je sais combien de Yvan, comment vas-tu?
Ça va bien, merci Nicolas Loïc.
Est-ce que tu peux te présenter? Parce que beaucoup de gens te connaissent, mais pas tous.
Ah, merci. Alors, je pense que plus de gens qui ne me connaissent pas qui me connaissent. En fait, bon, moi, je suis Yvan Fournier. Je suis le chef gouvernemental de la sécurité de l'information au gouvernement du Québec, ayant le titre de sous-ministre adjoint. Mon background est très technique. Alors moi, j'ai commencé comme technicien dans le réseau de la santé. J'ai fait 29 ans. Ça trahit un peu mon âge. J'ai fait 29 ans en santé. Donc, j'ai fait à peu près tous les postes, là, technicien, technicien spécialisé, analyste spécialisé, coordonnateur. Après ça, chef de service, primé, adjoint directeur, directeur adjoint. Et j'ai terminé directeur au CIS Chaudière-Appalaches et directeur général de la cybersécurité et de la sécurité de l'information à Santé Québec. Alors, mon background est plutôt technique. Donc, j'ai fait beaucoup d'implantations. Je me souviens, je pense que j'étais le premier instructeur novel à l'époque francophone. Les gens de la France venaient ici au Québec, ça fait former. Fait que j'ai commencé en réseau, novel et compagnie. J'ai fait toutes mes certifications de Microsoft et compagnie. J'ai 22 certifications en cybersécurité. J'ai fait quelques concours aux États-Unis de hacking et tout ça. Donc, ça, c'est un peu mon background. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la techno. Encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est moins bon. C'est qu'on a moins de temps, on a d'autres responsabilités. Mais je m'amuse encore beaucoup en technologie.
Effectivement, mais rendu à un certain âge, les enfants sont grands, donc on regagne un peu de temps qu'on avait perdu au cours de ça. Puis t'as moins de cheveux gris que moi, fait que Claire, tu fais moins ton âge que ouais. Moi en ce sens-là.
Mais j'ai l'impression que je perds plus que toi, fait que là, ça s'équivaut.
Ça s'équivaut un peu. T'es de retour dans le giron gouvernemental, là, t'as fait la santé, t'avais fait un peu du secrétaire du Conseil du Trésor un peu au début des années 20.
En 2018, oui. Mais j'avais les deux rôles. Hein. J'étais directeur en santé et j'étais directeur principal au SCT. Et c'est là qu'on a créé tous ensemble le Centre gouvernemental de cyberdéfense.
Oui, tout à fait, qui est déjà une construction phare au gouvernement du Québec qui changeait beaucoup la dynamique par rapport à ce qui se passait avant. Là, tu es de retour au MCN. Maintenant, à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, cette entité-là existe. Fait que tu reprends un peu les rênes de ce que tu avais commencé à travailler il y a quelques années. Le gouvernement continue donc à travers tes initiatives à améliorer sa posture de façon très importante. Puis c'est pour moi, comme citoyen, je trouve ça très positif parce que je me sens rassuré. Est-ce que tu peux faire un paysage général de ce que vous êtes en train de faire comme puis continuer d'améliorer dans vos processus et mesures de sécurité?
Oui, bien sûr. Alors, premier élément, pour ceux qui s'en souviennent, en 2019, on avait travaillé en équipe avec quelques champions du réseau gouvernemental. On a créé 15 mesures obligatoires. Donc, ces 15 mesures-là n'ont pas été inventées par nous, mais on les a sélectionnées du NIST. Là. Donc, notre référentiel était le NIST à l'époque. Pour quelles sont les plus gagnantes, les plus faciles? Donc, ce sont des mesures obligatoires telles que mettre un multifacteur d'authentification, de faire mettre tes rustines sur tes serveurs, sur tes postes, d'avoir, par exemple, un SGBD qui est encore supporté par le manufacturier. Ce sont des éléments de base qu'on a mis en place qui donnaient un petit coup, une petite vision pour dire qu'il faut mieux s'équiper en tant que gouvernement parce qu'on est quand même là pour protéger la donnée du citoyen et la productivité. Tu sais, le gouvernement base pratiquement 100% de sa productivité puis des réponses aux citoyens sur des technologies de l'information. Quand ça l'arrête, ça touche des citoyens, ça touche des entreprises qui ont besoin de réponses. Donc, il faut mettre en place des mécanismes de continuité, je dirais, de résilience sécuritaire. Donc, au-delà des 15 mesures, il y a beaucoup d'éléments là, qui se fait. On est en train de mettre en place un service de surveillance 24/7, 365 jours par année, basé avec de l'IA. On a des services de balayage de vulnérabilité externe et interne. On a mis en place des PDNS, donc qui nous permet à tous les employés qui sont à la maison en télétravail, lorsqu'ils font des requêtes, parce que vous comprenez bien que pour le bénéfice de tout le monde, c'est bien intéressant pour le gouvernement quand l'employé est à la maison et c'est son Internet à lui qui sort pour faire son travail. Donc, on veut s'assurer qu'il ne va pas sur des sites ou des environnements illicites. Donc, ce sont quelques éléments qu'on met en place pour surveiller et contrôler les actions de ce qui se produit chez nous. Au-delà de ça, il y a des éléments énormes. Il y a plus de 500 initiatives IA dans le gouvernement du Québec actuellement. Donc, on a énormément d'initiatives, ne serait-ce que le quantique, ne serait-ce que le bug de 2038, là, le fameux Y2K38, qui fait en sorte que si on a des applications qui ont été développées avec l'horloge, l'horodateur 32 bits, bien à partir de je crois que c'est janvier 2038, je crois que c'est 19 janvier, si ma mémoire est fidèle, bien, tout l'horodatage tombe en 1900, ce qui amène un enjeu. Mais vous savez, au gouvernement du Québec, s'il y a quelque chose qu'on fait de bien, c'est qu'on utilise bien l'argent du citoyen, parce que nos systèmes, on les garde très, très longtemps. Donc, c'est sûr qu'on a des systèmes actuellement qui ont été développés avec un volet A, un volet B, un volet C. Ça le peut avoir 15 ans, ça peut avoir 18 ans, puis le système fonctionne encore très bien, est encore très, très, très utilisé. Ceci étant dit, ça se peut qu'il ait été utilisé avec des horodateurs 32 bits de l'époque. Donc, ça, c'est une autre initiative. On est en train de faire l'inventaire pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'arrêt de service. Évidemment, on a quelques inquiétudes, hein, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle au niveau des attaques qu'on subit. Le nombre d'attaques qu'on subissait était phénoménal. Depuis qu'on a l'IA, on la voit, la courbe, là. Puis c'est pas une petite courbe, là. C'est drastique. Donc, on se doit d'être un peu plus rapide sur nos actions lorsqu'on trouve une vulnérabilité, lorsque, par exemple, on trouve une mauvaise configuration. Donc, c'est toutes des initiatives qu'on est toutes en train de mettre en place. On avance en parallèle. Je pense qu'une initiative que les gens n'ont pas saisie parce que ça n'a pas été annoncé en grande pompe, c'est le regroupement RHRI. Je ne sais pas si Nicolas Loïc t'en a entendu parler un peu, mais c'est que 52 organismes publics, donc ministères et organismes publics, la partie cybersécurité s'intègre à même le MCN. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la ligne du temps et les choix technologiques, les choix stratégiques vont être suivis partout pareil. Donc, un des éléments, c'est pas parce que tu es un petit organisme public que tu dois pas avoir les mêmes mécanismes de sécurité qu'un gros. Parce qu'aujourd'hui, on est tous entremaillés. Donc, on a une chaîne, on rentre dans un système qui lui colle un autre système, fait appel à un autre système. Donc, c'est important que tous soient au même niveau. Donc, la vision qu'on a, on a créé un plan de rehaussement rapide. Et on est en train de faire ce qu'on appelle une évaluation de maturité de chaque organisme public qui se joint à nous. Donc, on a aujourd'hui avec les informations qu'on a, et quand on va les intégrer à partir du 1er avril, on arrive avec des outils IA pour faire on veut sortir du modèle où les gens répondent à un fichier Excel pour dire « oui, j'ai fait ci », on va aller le voir. Donc, avec l'intelligence artificielle, on est en train de se monter une trousse. On intègre un premier OP, on installe nos outils. Et là, on va être en mesure de dire, oh, on pensait que tu étais 8 sur 10 en termes de maturité. Tu es 9 sur 10, bravo. Ou tu es 6 sur 10. Et voici les premiers éléments sur lesquels on veut travailler pour rehausser. On sait que le temps de piratage est très, très vite. Aujourd'hui, il y a 0,2 qui est annoncé. 4 heures, on est piraté. Là. C'est à peu près ça. Avant, ça prenait des jours, voire des semaines. Fait qu'on pouvait être un peu plus, prendre le temps de faire les choses. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est-à-dire, dès qu'il arrive de quoi, il faut rapidement bouger.
Effectivement. Puis le regroupement est intéressant. Puis je le vois d'un bon œil. Pas tout le monde le voit d'un bon œil, mais moi, je le vois d'un bon œil à l'intérieur de l'appareil gouvernemental, comme les avocats sont regroupés au ministère de la Justice et comme les communications sont regroupées au MCE, a une cohérence globale dans l'appareil gouvernemental. Enfin, je pense que ça va amener justement, comme tu mentionnes, une cohérence et une meilleure posture globale sur l'ensemble de l'appareil. Je vais me concentrer sur deux points spécifiques ou deux projets parce que on va creuser un petit peu plus. Le premier qui m'intéresse particulièrement, c'est la surveillance que vous faites au niveau consolidé, au sens de l'appareil gouvernemental. Pour moi, c'est nouveau parce que historiquement, j'avais toujours l'impression que c'était chaque ministère gérait sa petite surveillance et choses. Là, vous allez regrouper ça dans une équipe spécialisée et d'envergure qui va permettre justement d'augmenter la posture globale du gouvernement du Québec.
Absolument. Premier élément, on ne fait pas ça seul. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne fait pas ça seul. On va toujours avoir, tout l'environnement va être surveillé par nous, mais par aussi une compagnie privée. Donc, on s'associe avec des appels d'offres à des firmes externes qui vont nous aider à monitorer 24/7, 365 jours par année. Donc, grosso modo, le projet est le suivant. C'est-à-dire que, historiquement, tu l'as bien dit, chaque organisme public devait se surveiller lui-même. Donc, ça prenait quelqu'un qui avait, par exemple, le balayage de vulnérabilité. Ça prenait quelqu'un qui regardait c'est quoi qu'on a trouvé, puis comment qu'on doit le corriger, puis à quel moment. Après ça, les gens regardaient les EDR. Qu'est-ce qu'on a eu comme Y a-tu un incident? As-tu été détecté par notre ODA? Là, les antivirus, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était très décentralisé et c'était pas remonté au niveau central, puis c'était surveillé selon les capacités de l'organisme public. C'est-à-dire que c'était pas les plus gros avaient des moyens d'avoir quelqu'un de garde 24/7 365 qui s'alternait. Le plus petit, ben des fois, on va se le dire, plus petit organisme public, mais la personne qui installe le poste, c'est la personne qui fait les backups, puis c'est la personne qui fait la cybersécurité. Lui, il ne peut pas être de garde 365 jours par année, puis il ne peut pas surveiller la nuit. Donc, le projet, il est fantastique. Donc, évidemment, les organismes publics ont tous, parce que dans une des mesures obligatoires était de mettre un EDR, on en a parlé d'entrée de jeu. Donc, tous les organismes publics ont des EDR, ont des antivirus. Le balayage de vulnérabilité, il est central. Donc, nous, au MCN, actuellement, on voit tout ce qui est balayé, tous les adresses IP vues d'Internet, on a le rapport hebdo, on peut rentrer puis on voit s'il y a des alertes, et on est en train de le déployer sur l'interne aussi. Donc, notre objectif, c'est d'intégrer tout ça, c'est-à-dire les rapports des antivirus, les rapports des EDR, les rapports des scans de vulnérabilité internes et externes, les PDNS. Donc, tous les outils qu'on a, entre autres, on commence à faire un balayage des Active Directory locaux pour s'assurer que tout est correct. Donc, les résultats de tout ça s'en vont dans un CIEMS et un SOARS qu'on a localement. On a fait le choix de deux entreprises, deux produits qui sont basés sur l'IA, qui sont basés aussi sur des expertises qu'on connaît, les gens sont. Et on va être en mesure d'avoir une vue globale de tout ce qui se passe au gouvernement du Québec qui sont sur la LGGRI. Donc, il y a une loi de la gouvernance au gouvernement et tous ceux qui sont membres de ça, ben nous, on va avoir le résultat centralisé dans notre environnement de surveillance. Donc, évidemment, c'est bien de le savoir. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, puis je vais faire une petite boutade, là, mais admettons qu'aujourd'hui, on découvre un CVE important. Puis, je fais une petite parenthèse, mais le MCN, via le CGCD, fait maintenant partie des 20 groupes mondiaux avec le Luxembourg qu'on peut créer des CVE. Donc, on a notre numéro pour créer nos propres CVE, approuver tout ça, avant qu'ils soient mis à l'extérieur, parce que nos outils de détection, d'ailleurs, nos petits gars, nos petites filles, nos pentesters sont excellent. Ils découvrent des 0D. C'est intéressant, mais on s'ajoute à ça des pentesters virtuels avec de l'IA qui, eux, découvrent aussi beaucoup d'éléments. Donc, c'est intéressant que le Québec, et non le Canada, le Québec fait partie des 20 créateurs de CVE maintenant. Donc, c'est vraiment une belle reconnaissance que le Luxembourg nous donne parce qu'on en trouve beaucoup. Donc, toutes ces informations-là qu'on trouve, ça s'en va dans nos systèmes. Et là, on le voit. Maintenant, hier, quand on trouvait quelque chose, c'était un peu une prière. C'est-à-dire qu'on appelait les gens locaux, puis on dit, bon, ben là, il y a telle urgence, faut le faire. Puis là, il fallait attendre qu'ils nous disent, oui, c'est fait. Là, on va le savoir live. Est-ce que c'est fait, c'est pas fait? Et quand moi, comme chef gouvernemental de la sécurité de l'information, je vais prendre une décision à dire, OK, ça, c'est une priorité. Si tu peux pas le faire, faut que tu arrêtes ton système parce qu'il y a trop de risques. Comme on a fait avec le dernier coup avec SharePoint, quand il y a eu l'enjeu de SharePoint, rapidement, on a agi. On a fait fermer les gens. Les gens ont corrigé puis l'ont remis à jour. D'autres provinces que je nommerai pas sont encore en train de travailler là-dessus. Là. Il y a une province, entre autres, que j'ai donné un coup de main. 900 serveurs SharePoint piratés. Et là, ils ont pas été assez vite, puis ils me disent, mais comment ça, chez vous au Québec, vous n'avez pas d'enjeu? Ben, c'est parce qu'on a dans notre législation, j'ai le pouvoir, comme chef gouvernemental, de l'arrêter. Fait qu'on l'a fait, les gens ont super collaboré, j'étais tellement fier du réseau gouvernemental, ça a été, personne n'a critiqué, le monde a arrêté tout ça, mais c'est un peu une prière. Tu sais, là, maintenant, avec ce qu'on fait avec la surveillance, on va le savoir, et on va plus loin que ça. Admettons qu'il y a une vulnérabilité, il y a un IOC qui sort, ben, on va le savoir qui est à risque, et on va pouvoir le déployer centralement à toutes les firewalls, toutes les coupe-feu du gouvernement qui est au périmètre d'Internet et sur le réseau. Donc, je vous donne un exemple. Le fameux RGT, qui est notre réseau, qui est notre backbone de connexion, ben, il y a beaucoup d'équipements là-dedans. Mais ces équipements-là, on les laisse pas aller. On les patche. Excusez, on met la rustine. On les configure. On les installe. Ben, avec ça, on va être en mesure de déployer les IOC sur tout le réseau. Donc, avant que ça se rende même à nos serveurs, le réseau va l'avoir bloqué. Puis, si jamais ça se rendait, ça va être bloqué de ce côté. Donc, notre niveau de surveillance n'est pas juste d'avoir une belle map du gouvernement du Québec sur nos écrans et de dire, OK, il y a une attaque qui se passe là, ah, il y a un incident là. C'est aussi d'être en mesure de réagir. D'où, on parlait en entrée de jeu, le regroupement RH et RI. C'est assez incroyable parce que ça tombe au moment où on va être en mesure de dire, ben, tel organisme public, on va tout automatiser. Donc, quand il y a des éléments, pouf, on arrête le serveur. On appelle les gens du réseau, on appelle les gens de la bureautique, on appelle les gens de l'infrastructure. Là, tel serveur, on l'a déconnecté parce qu'il est en train de se faire hacker. Peux-tu le patcher? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis on va le suivre. Donc ça, ça fait partie de notre service de surveillance. Oui, on va tout voir, mais on va aussi automatiser énormément d'éléments pour aller plus vite. Puis la question est, avons-nous le choix? T'sais, en 2026, avons-nous le choix de mettre de l'automatisation? On n'a pas le choix, faut aller là. Et on est prêt. Souvent, les gens pensent que le gouvernement est en arrière, mais je dois vous avouer qu'il y a quelques compagnies extérieures au gouvernement qui sont venues voir notre plan et ce qu'on fait aujourd'hui en surveillance. Et des compagnies privées externes qui disent, hey, on pourrait-tu avoir votre service? Il est meilleur que ce qu'on paye. Et je dois vous avouer que le prix que ça nous coûte est vraiment très, très bon comparé à certains enjeux externes qu'on voit là dans les... Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui paye 1,2 million se fait surveiller par année. Avec nous, c'est à peu près 600 000. C'est beaucoup d'économies pour le gouvernement et les services sont davantage poussés vers les services gouvernementaux. Il y a beaucoup de municipalités aussi qui ont de l'intérêt à embarquer avec nous. Là, ça fait 4 qu'on rencontre et à chaque fois qu'on les ouvre, on leur fait signer une entente de confidentialité puis on leur montre ce qu'on fait. Ils disent, OK, nous, c'est votre service qu'on veut. T'sais, on n'est pas une shop de surveillance privée, mais les gens sont assez surpris de ce qu'on a mis en place.
Mais dans l'espace public, c'est nécessaire, ce regroupement-là, c'est bénéfique. D'autres entités gouvernementales à travers le monde et au Canada l'ont fait aussi à certains égards, justement, cette amélioration-là. Donc, puis comme j'en disais, d'entrée de jeu, je suis favorable au regroupement des ressources, justement, parce que ça l'amène, cette capacité-là, dans un même seul endroit, de toute cette compétence-là qui est en ébullition. Puis tu faisais justement l'éloge de tes équipes qui découvrent des CVE, qui font des thèses, des choses comme ça. Donc, celle-là, on voit, puis toute cette expertise-là, puis les mettre ensemble, parce qu'on est des humains, on bénéficie des connaissances des autres, donc une force, une synergie et une inertie, mais une inertie positive, c'est en sorte que tout ce groupe-là s'amène à aller beaucoup plus loin, fait que c'est très intéressant de voir ça, puis ce regroupement-là. Et dans l'espace public, tu parlais des petits ministères, petits organismes publics, bien, les municipalités, à bien des égards, à part les 2 ou 3 grandes villes au Québec, ils n'ont pas tant de moyens en technologie que ça. Et eux aussi sont pris comme des petits organismes publics qui sont un peu mal pris avec leur situation. Puis je vois ça encore très positivement parce que les villes sont responsables de l'eau et l'eau est mal surveillée. Donc, on a une conséquence très importante comme citoyen
voilà.
qui est là.
Je ferai un petit peu de pouce sur ce que tu dis. Le projet de loi 82, là, qui est le PL 82 qui a été adopté, nous donne pour la première fois une certaine responsabilité dans la société civile. Donc, tout ce qui est infrastructure critique, le gouvernement va les identifier et on va devoir travailler avec les municipalités, par exemple, pour l'eau, l'électricité et compagnie, qu'on soit en mesure de s'assurer quelle sorte d'attaque vous avez, quelles sont les vulnérabilités que vous avez et tout ça. On a commencé à travailler avec certaines municipalités, puis c'est assez chouette parce qu'ils embarquent, ils disent oui, on veut travailler avec vous. Fait que si on se lance dans les 10 prochaines années, il y a de fortes chances qu'on soit très impliqué, mais très, très, très impliqué avec les notions de municipalité pour travailler davantage avec eux pour les aider à travailler. Évidemment, le gouvernement du Québec ne deviendra pas un provider de réseau puis du support de firewall des municipalités. Là, c'est pas ça du tout, mais on sera en mesure de supporter et d'enligner certaines recommandations et surveillance à leur égard.
C'est une très, très bonne chose. Je rebondis sur une autre facette de justement des grands projets que vous êtes en train de mettre en œuvre, le fait de balayer à l'interne, à l'externe. On a fait une petite mention pour la surveillance. En quoi, parce que moi, je suis familier avec l'externe parce que c'est arrivé dans les années, pendant le confinement, ça a été déployé massivement, cette structure-là, qui a permis enfin d'avoir une visibilité complète de ce qui se passait sur la face externe. Et là, ben là, j'apprends que ça, sur la face interne, c'est en cours de déploiement ou c'est en train de se faire. J'aimerais ça en entendre un peu plus là-dessus.
Oui, ben ça me fait plaisir de t'en parler. Alors, on est allé en appel d'offres pour acquérir des licences pour le nombre d'adressages IP qu'on a à l'intérieur du gouvernement. C'est très intéressant parce qu'on a une vue, comme tu disais, j'ai une vue externe. Donc, moi, à tous les matins, je peux aller voir qu'est-ce qu'on a découvert comme vulnérabilité du gouvernement du Québec sous la LGGRI et j'ai instantanément dit « Oh, tel OP a des vulnérabilités puis ça fait tant de temps. » On a créé pour ça le GMVI, la gestion des menaces, vulnérabilités et incidents. Donc, on a créé des délais. Donc, on est rendu à la version 2, puis la version 3 va être approuvée bientôt. Donc, nous, ce qu'on dit aux organismes publics, si tu as une vulnérabilité de tel type, tu as tant de jours pour le corriger. Puis là, nous, on surveille, puis on relance. Puis on relance pour s'assurer que ça va aller vite. On comprend avec l'arrivée de l'IA, les délais vont devoir se raccourcir. Déjà que c'était court, il va falloir les raccourcir, puis ça va trop. Donc, on a une belle vision de tout ce qui est externe. On n'avait pas la vision interne. Donc, je te donne un exemple. Avec le quantique, il y a énormément de protocoles qui ne sont pas capable de supporter une attaque quantique. Essaie d'avoir l'inventaire de ça quand tu as des systèmes qui ont 15-20 ans, qui ont été hard-codés. Donc, les gens, à l'époque, souvenons-nous d'une époque où les programmeurs hard-codaient les mots de passe dans le code, les protocoles dedans, au lieu d'avoir des API ou des frameworks pour être capable de le faire, bien, on se retrouve, nous, avec un héritage de plusieurs années. Donc, avec les outils de balayage interne et externe, un des éléments qui va nous aider, c'est oui, de voir les vulnérabilités qui existent, mais également d'être en mesure d'avoir un inventaire de ce qu'il va trouver. Ça a l'air particulier que je vais te dire là, mais un élément, puis tu le sais, ce qui est tough dans tout ça, c'est d'avoir un inventaire à jour. J'ai quoi comme environnement? Je vais te donner un exemple banal, mais est-ce que les gens mettent le microcode des cartes contrôleurs d'un SAN à jour? Si c'est pas fait, ben ça se peut qu'il y ait une vulnérabilité tantôt qui amène ça. Donc, d'avoir un inventaire de ta carte contrôleur, de tes disques rigides, les types de BIOS qu'il y a dans les PC, dans les serveurs et tout ça. Puis qu'est-ce qui roule sur ces environnements-là comme logiciel? Donc, le balayage de vulnérabilité est intéressant pour nous dire il y a ce qu'il y a de quoi de vulnérable. Mais ce qui m'aide, moi, c'est qu'à terme, je vais avoir un inventaire automatisé, centralisé. Donc, je te donne un exemple. Il y a une vulnérabilité qui arrive. Je vais être en mesure de rentrer dans ma base de données et dire, ah, il y a tel OP qui a ce produit-là. J'appelle que lui. Là, aujourd'hui, quand il y a une vulnérabilité, je le lance à tout le monde parce que je veux que tout le monde le sache. Là, tout le monde se met à travailler. « Hey, j'ai-tu cette version-là? » Là, fais le tour à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est un inventaire centralisé le plus complet possible de tout ce qu'il y a dans le gouvernement sous la LGGRI pour être en mesure de cibler des calls, excusez l'anglicisme, de cibler un appel pour dire « Hey, toi, tu as ce produit-là, corrige-le. » Juste pour te dire comment c'est drôle, dernièrement, il est arrivé un cas où on a appelé un OP et on lui disait « Hey, notre balayage de vulnérabilité a trouvé telle vulnérabilité sur tel environnement matériel. » Et la personne au téléphone me dit « On a tenté, mais la personne me dit « Non, non, Yvan, on n'a plus ça, c'est fermé depuis au moins 2 ans. » Ouais, c'est parce que quand je regarde mon scan de vulnérabilité, je le trouve encore. Il y avait quelqu'un qui avait décidé de le réallumer, vu sur Internet, connecté à leur réseau, parce qu'il faisait des tests. Et la personne qui l'a allumé, c'était pas quelqu'un qui était dans la séquence de pourquoi ça avait été fermé. Puis il trouvait ça dommage. Le spécialiste trouvait ça dommage d'avoir ça, puis qu'il pouvait pas faire de test avec. Fait qu'il a simplement... il avait fait toutes les demandes, ça avait été autorisé d'être réallumé, mais il ne l'avait pas déconnecté de l'intérieur du réseau. Donc, ça donne un exemple à quel point les balayages de vulnérabilité externes sont payants pour nous comme gouvernement. C'est-à-dire, puis c'est pas la première fois qu'on a des discussions avec nos clients parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas ça. Fait que ça, c'est le premier élément. Mais à l'interne, ça va nous permettre aussi d'avoir un meilleur inventaire et notre posture de désuétude. Hein, parce qu'on se comprend, tu sais, le gouvernement est là pour offrir des services aux citoyens. L'argent est mis à bon escient pour le citoyen. Puis souvent, ben les technologies sont étirées et soutenues très, très longtemps. Notre balayage interne va nous donner une meilleure vision sur « Oh, attends une minute, là, c'est peut-être pas normal que tu roules encore Windows XP. Là. Pourquoi tu le roules? Ah, mais parce que le SGBD il roule juste ça. OK, le problème, c'est pas le poste. Le problème, c'est l'application. Puis, as-tu un plan de match pour l'application? » Ce qu'on voudrait faire, c'est un peu un de mes rêves, là, c'est être capable de donner au gouvernement une vision de toute la désuétude. Et de dire, regardez, là, ça, là, ça nous amène à chaque année, ça augmente de tel pourcentage notre risque d'attaque. Parce que c'est vulnérable. Donc, il faut aller de l'avant. Et on travaille de ce côté-là. Fait que dans ce cas de vulnérabilité, excusez-moi, le balayage de vulnérabilité est très intéressant pour nous parce qu'au-delà d'avoir une photo des vulnérabilités qu'on a, ça me permet aussi de voir des éléments autres que de vulnérabilités, mais d'avoir un inventaire plus complet. Et ça, c'est très intéressant.
Oui, c'est très intéressant. T'as abordé deux facettes. Sur la face extérieure, effectivement, d'avoir d'être capable d'avoir la surface d'attaque. Et il y arrive souvent que des manipulations autorisées arrivent à réactiver des systèmes puis on le contrôle pas. Fait qu'on n'a pas d'inventaire. Ça vient justement couvrir ça. Mais là, l'autre côté interne, qui est, je trouve, encore plus intéressant, c'est le Saint Graal que tu vas avoir, c'est-à-dire l'inventaire complet de ce qui se passe et d'être capable de prendre des décisions éclairées à tout moment et justement d'avoir une vue toujours relativement à jour sur ce qui se passe et d'amener, un, les bons investissements sur les bons équipements et les protéger adéquatement au bon niveau. Donc, optimiser tes investissements sécurité pour arriver au maximum de protection au plus faible coût possible, c'est vraiment... Top.
Ouais, c'est tout à fait ça. Je vous dirais, tu sais, on n'est pas, tu parles du Saint Graal. Pour moi, le Saint Graal, ça serait aussi d'avoir un inventaire complet des objets connectés.
J'imagine qu'à travers ton balayage automatique, tu vas réussir à en attraper une partie, j'espère.
Oui, mais il va falloir aller plus loin. Puis ça, c'est un de mes rêves. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir. Puis tu sais, c'est rendu fou aujourd'hui, là. Tu sais, je te donne un exemple. J'ai un ami qui a une érablière. Et il met des objets connectés dans l'érable pour avoir le taux d'acidité, puis cette année, prévoir, et il doit-tu faire quelque chose pour avoir un meilleur sirop? Quand c'est rendu que ton érable à la maison est connecté sur Internet, là, ça commence à être quelque chose, là. Fait que là, il faut absolument qu'on ait au gouvernement du Québec une façon, puis c'est très utilisé en santé, c'est très utilisé au transport, c'est très utilisé en construction, les objets connectés de plus en plus. Mais là, on connaît bien les nouvelles règles des objets connectés sécuritaires, ça va prendre 5 ans avant qu'on les voit dans nos microcodes. Puis les études qu'on fait, c'est que là, j'ai rien contre le fait. Ce que je veux dire, je suis pas contre, là, mais c'est parce que les 5 compagnies qui font du microcode pour les objets contaminés, les 5 plus grandes compagnies qui font le microcode pour les objets connectés, sont toutes chinoises. Sont toutes chinoises. Fait que ça commence à être compliqué, c'est-à-dire qu'on achète des produits américains, on achète des produits européens, mais le microcode, puis le thinking à l'intérieur de la petite boîte, c'est fait en Chine. Puis encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est pas correct. Je fais juste dire, ben il faut se questionner. J'ai un drone à la maison, puisque j'essaie de travailler sur un système de sécurité avec un drone. Puis quand je l'ai ouvert, puis j'ai commencé à lire le code pour être capable de modifier les choses, là, je voyais que la caméra était capable de faire de la reconnaissance faciale de mon petit drone que j'ai acheté à 40$. Là, c'est une cochonnerie. Qui va très bien, mais grande surprise. Mais là, quand je lisais le code, ça a pris du temps avant que je puisse avoir accès à tout ça, parce que moi, je veux le remodifier. Là, je me disais, OK, c'est juste une switch à on, puis le drone peut faire de la reconnaissance faciale. Fait que là, il y a beaucoup d'éléments dans les objets connectés qu'on connaît pas, qui sont là, puis on achète, puis ça fonctionne bien à la maison, tu sais, nos TV, nos gestions de lumière, que ce soit du Philips Hue avec du Zigbee ou des NOCN comme protocole. Tout ça, ça jase. Puis est-ce qu'on sait vraiment ce que ça dit? Fait que si on porte ça dans l'appareil public, donc si on se met à acquérir des équipements, des caméras intelligentes, si on se met à acquérir des objets, tout ça, ben il va falloir que je sache qu'est-ce qu'on a, parce que si à un moment donné, il y a un enjeu, il faut que je le sache. Rappelons-nous le thermomètre à Monaco, un thermomètre dans un aquarium, parce qu'il y avait des poissons rares dans ce casino-là, puis le thermomètre a été hacké par quelqu'un de l'extérieur, a passé par le thermomètre qui était connecté sur le Wi-Fi, passé à travers du thermomètre pour arrêter le casino 24 heures de temps. C'est des millions qui ont perdu dans une journée à cause d'un foutu thermomètre. Donc, faut penser plus loin que, ah, c'est le fun, j'ai un thermomètre qui me dit l'eau, la température de l'eau puis le pH de l'eau pour mon poisson. Ça va plus loin que ça. Si vous le connectez sur nos réseaux, ben, ça peut avoir une incidence. Fait que, pour moi, le Saint Graal, c'est aussi les objets connectés en inventaire. Je sais pas si je vais y arriver avant la retraite, mais ça fait partie des plans.
Ben, c'est effectivement, puis tu sais, il y a déjà des gestes concrets qui ont été faits sur des décrets pour interdire certains fabricants, oui. Justement, qui ont été déjà posés. Fait qu'il y a déjà des actions qui sont faites au niveau du gouvernement du Québec qui sont sérieux pour limiter cette portée des objets connectés qui peuvent être considérés comme étant hostiles. Ou, selon ce que c'est un cas hostile, mais un cas de vulnérabilité, comme l'exemple que tu mentionnes du thermomètre. Ça aussi, c'est un autre défi. Tu parlais de microcode dans les contrôleurs de SAN, par exemple, mais ça va avoir aussi cette portée-là de ramener tout cet inventaire-là, cet ultime inventaire de tout ce qui est branché dans l'appareil gouvernemental. C'est un beau défi.
Un beau défi.
Je pense que, je pense qu'en scan interne, c'est un bon début pour rentrer là-dessus puis ouvrir les consciences. Puis je pense qu'on va aller loin avec ça. Là.
Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, comme tu peux voir, Nicolas Loïc, on a beaucoup d'ambition. On a beaucoup de plaisir. Je dois avouer que moi, je les appelle les petits gars, les petites filles, là, qui travaillent en cyber, sont vraiment chouettes. Ils ont le cœur à bonne place. Les gens veulent travailler. Mais le fait qu'on était tous distribués, c'était difficile. Alors, je vois d'un bon œil la centralisation, puis que toute cette équipe-là, on travaille ensemble pour ramener à un niveau égal partout, tout le monde. Puis, vous savez, plus on est, plus il y a des idées, plus... Puis on travaille très sur le code ouvert. Donc, on cherche beaucoup l'open source avec des outils de plus en plus. On cherche la souveraineté. Puis ça amène un nouveau défi fort intéressant. Je dirais, c'est excitant, Nicolas Loïc, de dire, OK, on fait ça aujourd'hui avec un produit X, mais là, avec tel produit, on pourrait même participer au développement du code tantôt. On pourra faire partie de la communauté puis être capable de le faire. Puis je trouve ça très intéressant. Puis on va se le dire, là, si vous êtes impressionné de ce que GitHub fait avec AI pour faire du code, puis ce que Claude.ai fait, qui est terrible, bien évidemment, tu fais une recherche sur Claude, tu fais une recherche sur ChatGPT, puis tu demandes c'est quel le meilleur pour faire du code? Bien, c'est Mistral. C'est Mistral Code de la France qui cote le meilleur. Fait que tu sais, aujourd'hui, un programmeur qui est moindrement habile, avec tous ces outils-là, peut nous livrer du code de qualité, mais en quantité industrielle, qui n'a pas de sens. Là. Tu sais, ce qu'on faisait dans des mois, on va le faire dans une journée. Là. Fait que donc, je pense qu'avec le code ouvert, je pense qu'avec la souveraineté qu'on souhaite avoir pour le gouvernement du Québec dans nos logiciels, dans nos systèmes qui gèrent ça, je pense qu'il y a un futur fort intéressant. Et j'invite tout le monde à s'y intéresser et à venir nous parler si vous avez des idées, parce qu'on est très ouvert là-dedans. On cherche à se diversifier.
Oui, tout à fait. Je te remercie de ce partage-là. Merci d'avoir pris le temps de venir partager cette information-là. Si vous voulez justement continuer la conversation, tu vas être au sécure avec nous. Tu vas continuer cette conversation présentée de ce qu'on vient de discuter. Et justement, d'entamer cette conversation-là, je sais que au Hackfest, tu l'as fait, tu as ouvert la conversation, ce qui est très bien. Puis j'ai eu des échos très positifs de cette ouverture-là. Tu viens au sécure pour continuer cette conversation-là, puis justement qu'on ait un dialogue et qu'on soit pas dans l'hostilité, mais justement dans le travail commun pour améliorer la posture du gouvernement, parce que ça nous concerne tous. Je te remercie énormément. Je trouve ça vraiment très chouette ce qui s'en vient devant nous.
Ben, merci Nicolas Loïc de nous avoir invités, puis on se voit au sécure dans quelques semaines. Bonne fin de journée. Merci.